11h04 de retour dans Trudeau-Landry, comme à chaque jour, le bilan quotidien qui vient tout juste d'être publié. Si vous étiez à l'écoute dans l'ouverture de l'émission, il n'y a pas de grande surprise parce que j'avais eu pas mal les informations. On est un peu au-dessus du 2000 cas, on parle de 2132 nouveaux cas, positifs à la COVID-19, 63 décès. C'est un bilan à ce niveau-là qui est très lourd et 7 hospitalisations supplémentaires. Je vous rappelle que moi, on me disait ce matin... que c'était stable pour l'instant depuis 3 jours et qu'il trouvait ça quand même encourageant de voir qu'on avait atteint un certain plateau. Est-ce qu'il y a une perspective de voir une diminution du nombre de cas? On va pouvoir, entre autres, en discuter avec notre prochain invité, le docteur Gaston Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Docteur Dessert, bonjour.
Bonjour.
On parlera du bilan, des tendances et tout ça un peu plus tard, si vous le voulez bien, mais parlons de Gisèle, pour commencer. Évidemment, on ne veut pas parler du cas particulier de Gisèle Lévesque, mais il reste que bien des gens, avec raison, ont été peut-être inquiets de lire ce matin que la première personne vaccinée au Canada, Gisèle Lévesque, qui est une résidente du CHSLD Saint-Antoine à Québec ici, qui avait reçu la première dose du vaccin le 14 décembre dernier, ben, a finalement contracté la COVID-19, moins de 2 semaines après avoir reçu le vaccin. Et là, la première question, docteur Dessert, est assez simple. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça?
Ben, la réponse à ça, c'est actuellement ce qui se passe dans le CHSLD Saint-Antoine. La direction de santé publique de la Capitale-Nationale est en train d'explorer la situation pour voir justement est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier dans ce CHSLD-là, parce que il y a quand même beaucoup de cas là, qui s'y sont produits. Évidemment, il y en a plusieurs qui sont produits dans les premières 2 semaines qui suit la vaccination, et ça, c'est pas surprenant parce que le vaccin, ça lui prend 2 semaines avant d'établir l'immunité qui va nous protéger par la suite. Mais évidemment, les gens qui sont dans les CHSLD sont des gens très âgés, très touchés par plusieurs maladies. Ce ne sont pas des gens qui sont semblables nécessairement à ceux qui ont participé aux études cliniques dans lesquelles le vaccin avait démontré une très, très bonne efficacité. Donc, évidemment, c'est un des points qu'il faut qu'on surveille de proche, voir est-ce que chez des personnes aussi âgées, la protection va être aussi bonne avec le vaccin que ce qu'on a chez des personnes plus jeunes. Donc, je pense que, clairement, pour la majorité de la population qui vont se faire offrir le vaccin a des performances excellentes. Vraiment, là, on est très, très, très heureux des performances que ce vaccin-là, que ces vaccins-là offrent. Donc, je pense que pour ça, ça ne devrait pas remettre en cause du tout la vaccination, ni des plus vieux, ni des plus jeunes, mais pour les plus vieux, il va falloir voir est-ce que, effectivement, le vaccin offre une performance qui peut être un petit peu moins bonne parce qu'ils sont très, très âgés et que leur système immunitaire réagit moins bien. Ça, c'est une des choses qu'on va surveiller là, très étroitement dans les prochains jours, prochaines semaines.
Ça amène quand même une autre question, c'est-à-dire sur la façon d'administrer les 2 doses. Parce que le gouvernement, à un moment donné, a dit dans les dernières semaines, on a des doses et on va prendre des doses qui, normalement, auraient dû être des deuxièmes doses pour en faire une première dose pour des citoyens. Est-ce que ça, là-dessus, on doit s'inquiéter de ça? C'est quoi exactement les précautions qui devraient être prises pour l'administration de la 2e dose dans le but d'éviter que ça se produise, ça, docteur Dessert?
Ben, je pense que c'est une très, très bonne question, mais il faut la remettre en contexte. Actuellement, ce qui est prévu, c'est que d'ici à la fin mars, on aura au Québec reçu 1,3 million de doses. Or, si on prend toutes les personnes de 70 ans et plus, et les travailleurs de la santé, ça, c'est 1,7 million de personnes. La question qui se pose, c'est ce sont toutes des personnes à haut risque de COVID ou de complications de la COVID. Et donc, si je vous dis, avec une dose, on voit que 14 jours après avoir reçu une première dose, on a 92% de protection, et qu'après 2 doses, on a 95% de protection. Vous êtes 100 travailleurs de l'urgence d'un hôpital, puis je vous dis, vous avez 100 doses. Comment vous les utilisez? Est-ce que vous donnez 2 doses à 50 travailleurs ou vous donnez 100 doses à une dose à chacun des 100 travailleurs? Mais c'est un peu cette même chose-là qui est la situation pour les gens à très haut risque, pour lesquels actuellement, à cause de la pénurie de vaccins, la stratégie a été de dire on devrait donner au moins une première dose parce que, justement, cette première dose-là, elle amène une très bonne protection et que le système immunitaire, il oublie pas en deux, trois semaines ce qu'il a appris. Il est là pour nous protéger contre les infections futures. Donc, le 90% plus de protection qu'on a après la première dose, ça va pas s'écrouler, là, passer le 21 jours que recommande le manufacturier. Ça va persister. En général, dans les vaccins, ça persiste pendant des années. Les pires situations, c'est que ça diminue très tranquillement pendant les mois. Alors donc, actuellement, l'idée, c'est de prévenir ce qui se passe à court terme, parce que c'est maintenant qu'on a le plus de cas, plus d'hospitalisations et le plus de décès.
Docteur Nassan, votre réponse là, sur, est-ce qu'on doit se questionner sur le vaccin, je la trouve rassurante d'une certaine façon, parce que vous dites ses performances sont excellentes, mais peut-être qu'il serait moins performant chez des personnes plus âgées. Ça, ce bout-là me fait me reposer la question, est-ce que la séquence de vaccination est la bonne? Parce que si on dit que les plus à risque de mourir de la COVID, ce sont les personnes les plus âgées, mais que le vaccin est peut-être un peu moins performant, sachant que ces gens-là sont moins mobiles, est-ce qu'on n'aurait pas dû vraiment prioriser les gens qui leur donnent les soins, le personnel de santé, pour éviter qu'on fasse rentrer, par exemple, la COVID dans les CHSLD?
Ben, je vous dirais, ces deux opérations-là se mènent de front. Hein, actuellement, quand on regarde les doses qui ont été administrées, dans les CHSLD, il y a 40 000 personnes. Des travailleurs de la santé, il y en a 325 000. Alors, actuellement, il y a eu plus de 100 000 doses qui ont été administrées. La grande majorité a été administrée chez des travailleurs de la santé. Il y a aussi, évidemment, je dirais, là, actuellement, à peu près, si j'ai bien compris, plus de la moitié des résidents des CHSLD qui ont été qui ont reçu une première dose. Donc, un n'empêche pas l'autre. Là. On essaye vraiment de colmater les brèches là, à la fois chez les travailleurs de la santé qui travaillent dans ces milieux-là et chez les résidents pour les protéger directement.
Tantôt, Dr. Dessert, vous avez utilisé le mot pénurie. Puis là, c'est là que la politique, des fois, vient se mêler de ça. C'est que là, on nous présente... le gouvernement québécois a l'air bien fier de son efficacité à administrer les vaccins. Là, on nous parle de 100 000 personnes à date qui ont été vaccinées. Il y a une petite guéguerre politique entre Justin Trudeau puis François Legault là-dessus. Mais vous, sans vous demander de faire de la politique, vous parlez de pénurie. Ça veut dire que, présentement, le problème qu'on vit actuellement, c'est qu'il n'y a pas assez de doses. C'est pas juste la façon de les gérer, là.
Il n'y a pas assez de doses. Quand on regarde le pourcentage des doses qui ont été livrées au Québec, qui ont été administrées, je peux pas vous donner les chiffres d'hier, là, mais on était au-dessus de 75% des doses livrées qui étaient administrées là, très, très rapidement. Donc, c'est pas parce que le système de vaccination est déficient. Puis le fédéral, je dirais, il est coincé parce que c'est les manufacturiers qui décident du moment où ils vont livrer leurs doses. Et les manufacturiers, vous comprendrez qu'ils reçoivent des commandes de tous les pays riches, là. Alors, à ce moment-là, comment ils allouent les doses au Canada par rapport à la France, à la Belgique, à la Grande-Bretagne, aux États-Unis, ça, c'est une décision que prennent les manufacturiers et non pas les gouvernements.
Docteur Nessard, je me permets une dernière question sur la stratégie de vaccination, parce qu'on a parlé du cas du CHSLD Saint-Antoine, où bon, on est rendu à 68 cas encore actifs à ce moment-ci, et l'éclosion est survenue au moment où on débutait la vaccination. Est-ce que c'est une bonne idée de vacciner alors que le feu est en train de prendre à l'intérieur d'un établissement? Je fais le parallèle, par exemple, avec lorsqu'il y a des feux de forêt. À un moment donné, les pompiers tenteront pas d'éteindre le feu. Ils vont aller en périphérie, essayer de faire de l'arrosage massif et tout ça pour qu'à un moment donné, on puisse stopper le feu rendu là. Donc, tu sais, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau de vacciner alors que, par exemple, il y a une éclosion majeure qui est en train de se dérouler, même si c'est tragique, évidemment?
Bien, vous avez une très bonne question, puis c'est une question sur laquelle on s'est attardé dans les dernières semaines. Et ce qu'on voit, c'est que de vacciner un établissement qui est en éclosion, c'est sûr qu'on va se retrouver dans une situation comme celle qu'on voit au CHSLD Saint-Antoine et même celui qu'il y avait à Montréal, là, à Mémonide, où on a eu aussi des cas, il y avait presque 100... plus de 170 cas là, qui avaient été détectés entre la fin du mois d'octobre et le moment où la vaccination a commencé. Donc, il y a eu aussi des cas après la vaccination. Donc, quand on vaccine un milieu en éclosion, immanquablement, on va avoir des cas qui vont se produire chez les vaccinés. Ça va soulever les inquiétudes dont vous parlez. Mais est-ce que d'arrêter la vaccination dans ces sites-là, d'attendre la fin de l'éclosion pour vacciner, ça a des inconvénients parce que souvent, ces éclosions-là durent pendant plusieurs semaines. Et évidemment, si on vaccine, ben on peut espérer qu'à un moment donné, l'immunité chez les gens vaccinés va aider à prendre le contrôle de l'éclosion. Mais la démonstration de l'efficacité du vaccin pour contrôler une éclosion, ça, elle est encore à faire.
La question des tests rapides, docteur Dessert, on en a beaucoup parlé cette semaine, 1,3 million de tests rapides qui sont pas utilisés. Là, le gouvernement a dit non, on n'a pas besoin d'utiliser ça dans les écoles parce qu'on gaspillerait, entre guillemets, des doses. On n'a pas besoin de ça. Vous, c'est quoi votre position là-dessus?
Ben, je pense que les tests rapides, encore une fois, l'utilisation de ces tests-là, je pense qu'elle est variable. Il y a des tests rapides qui ont d'excellentes performances et qui peuvent, en tout cas, être utilisés là et sont actuellement en déploiement pour être utilisés un peu partout. Il y en a d'autres pour lesquels c'est plus compliqué pour deux raisons. Les raisons sont beaucoup en lien avec la validité des résultats. Donc, des fois, ils vont nous dire on est malade alors qu'on ne l'est pas, puis d'autres fois, ils vont nous dire qu'on n'est pas malade alors qu'on l'est. L'autre chose, c'est que penser utiliser ces vaccins, ces tests-là, dans les écoles, il faut voir que le dépistage des gens asymptomatiques, ça, il y a beaucoup de monde dans les écoles, hein. Il y a presque 1 million d'enfants là, qui sont à l'école élémentaire et secondaire. Même s'il y avait 1 million de tests de disponibles, c'est pas, on peut pas faire un test à un moment donné. Ça nous dit qu'à ce moment-là, il y a peut-être tel ou tel individu qui est infecté, mais ça nous dit pas quelle va être la situation la semaine prochaine. Et de refaire des tests régulièrement, bien évidemment, il faut comprendre que les tests, pour les faire, ça prend du personnel, ça prend du monde pour analyser les résultats, ça prend du monde pour faire le suivi. Et tout ça, actuellement, dans un contexte où le milieu, il est extrêmement, je dirais, là, étiré en termes de personnel capable de donner les soins, de faire le dépistage et tout ça. Alors, je pense que c'est toutes ces considérations-là qui font qu'actuellement, la place des tests rapides, elle est moins claire là, que ce que ça pourrait paraître, de dire, ben on a un test rapide, utilisons-le. Je pense que c'est un petit peu tout ça là, qui est mis dans le rapport sur comment on devrait utiliser les tests rapides.
Docteur Dessert, avant de vous laisser, j'aimerais vous entendre sur le bilan du jour, ou en tout cas ce qu'on voit, ce qu'on observe dans les derniers jours. Je disais qu'il y avait une source au gouvernement qui, de façon très prudente, me disait c'est stable et encourageant parce qu'on semble avoir atteint un plateau, là, 2132 cas aujourd'hui, 7 hospitalisations de plus. Évidemment, il y a beaucoup de décès, mais sur le nombre de cas supplémentaires, les hospitalisations, est-ce que vous partagez cette lecture-là?
Ben, je vous dirais, oui, je pense qu'il y a, je voyais les chiffres là dans la période autour de Noël, puis jusqu'à au début janvier, là où on était à 2500, 2700, 2800, on est passé au-dessus de 3000, et soudainement, je dirais là, depuis quelques jours, on est rebaissé à 2000. Évidemment, c'est très encourageant. Il faut voir que le nombre de cas, c'est quelque chose. En fait, on a comme trois indicateurs, les cas, les hospitalisations puis les décès. Les cas vont baisser avant que baissent les hospitalisations, puis les hospitalisations vont baisser avant que les décès baissent. Donc, c'est sûr qu'actuellement, ce qui étrangle le système de santé, ce sont les hospitalisations. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle d'avoir 3 jours de suite où on a des chiffres autour de 2000 cas. Ce qu'on espère, c'est pas que ça reste à 2000 cas, mais c'est non. Que ça baisse ouais. De plus en plus, mais on peut penser qu'on en a encore pour quelques jours à avoir une montée du nombre d'hospitalisations. Et ça, évidemment, là, plus vite ça va arrêter de monter et commencer à descendre, plus vite le système de santé va être capable de reprendre son souffle.
Merci, docteur Dessert, d'avoir pris le temps de nous parler.
Merci à vous. Bonne journée.
Merci, docteur Gaston Desserre, donc, de l'Institut national de santé publique du Québec. Je suis obligé de dire, puis il y a peut-être des auditeurs qui vont se souvenir, la dernière fois qu'on avait parlé au docteur Desserre, c'était juste avant, le bloc avant l'heure du lunch.
Ouais.
Et la mâchoire nous avait un peu décroché parce que c'était assez sombre.
C'était décourageant.
Puis on était parti en disant aux auditeurs, ouf, on s'excuse, bonne heure de lunch. Ça fait à peu près un mois et demi, deux mois de ça. Ben au moins, là, on se rend compte que... On semble tranquillement avec le vaccin. Puis oui, il y a des questions qui se posent. J'en ai posé, t'en as posé. On peut avoir des doutes, mais il reste qu'on semble enfin s'en aller dans la bonne direction. Ça reste à confirmer.
Moi, je l'aime pas cette nouvelle-là ce matin de Mme Gisèle Lévesque parce que je sais très bien comment ça peut être récupéré par des anti-vaccins, par des gens qui veulent pas comprendre aussi, qui ont encore des réticences en lien avec ça. Alors, c'est pas ça, pantoute. Pas ça du tout, du tout, du tout. Il l'a très bien expliqué. L'âge, c'est un facteur important là-dedans. Puis, on le sait depuis le début là, que ça prend deux doses aussi pour le vaccin Pfizer. C'est pas nouveau. Là.
Je pense à Manon, une fidèle auditrice qui a écrit au 25-226. Fait que finalement, c'est de la merde ce vaccin-là.
Non, c'est pas ça.
Faut écouter le docteur Desserre. Il a dit ce que tous les indicateurs démontrent, c'est que les performances sont excellentes du vaccin.
Mais ça fait partie de la complexité de ce vaccin-là, là, du Pfizer. C'est-à-dire, oui, l'histoire des deux doses. Puis, moi, je t'avoue qu'il y a un bout où je suis pas sûr encore d'être rassuré tant que ça. C'est sur l'écart entre l'inoculation des deux doses. Là. Ça, le gouvernement joue là-dessus. Là, je suis pas sûr d'être encore ben rassuré avec ça, Joe. Là.
Alors, d'ailleurs, à ce sujet-là, Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui, me disait-on ce matin, va donner des précisions sur la deuxième dose. Et j'ai failli interrompre le docteur Desserre, Jérôme.
Pourquoi?
Des fois, tu disais, hey, on a une nouvelle de dernière heure, il faut tout arrêter. Finalement, j'ai décidé de me garder une petite gêne, mais j'aurais pu l'interrompre pour dire que l'Impact de Montréal devient le club de foot de Montréal.
J'aime ça, moi, le CF Montréal. Parce que, tu sais, ça avait créé un genre de mini-scandale.
Comme
là,
le
sur
FC
les...
Barcelone, ouais.
Ben, c'est parce que, à l'international, quand tu veux recruter, là, je comprends que la décision se prend pas juste là-dessus. L'Impact de Montréal, tu sais, en Afrique ou en Europe, là.
Ça dit rien.
Ça sonne pas équipe de foot.
OK.
Le CF Montréal, là, t'as quelque chose qui est plus international.
Parce que dans le fond, ça va être CF Montréal. C'est Club de foot de Montréal ou on va l'appeler CF Montréal?
Pas de Montréal. C'est Club de foot Montréal.
CF Montréal.
C'est bizarre comme ça.
Ouais, mais c'est qu'ils l'ont francisé parce que la première info qui était sortie, c'était Montréal FC. Puis là, les défenseurs de la langue française. Voyons, Montréal FC Football Club. Tu sais, ça se prononce, ça sonnait anglophone pas mal ou trop international. Là, ils l'ont reviré d'une façon où je pense que ça peut plaire à tout le monde.
Mais là, comme tout le monde peut chialer sur tout, quand vous allez voir beaucoup circuler le logo aujourd'hui. Là,
il est beau le logo.
C'est un flocon, c'est mais les gens disent que ça ressemble à un anus.
Ah, ouais.
Oh, wow,
faut chercher. Il y a des gens qui pensent toujours à ça, hein?
Oui.
Mais mais c'est pas juste un flocon, Nico. C'est le logo de l'Expo 67 aussi adapté en flocon. Je le trouve très beau. J'ai pas un gros fan de soccer, là, mais...
Je vais regarder ça pendant la pause. Est-ce que ça va me faire devenir plus intéressé au soccer que ça change de nom? La réponse, c'est non!